On aime le faire à chaque semaine. On va aborder la thématique du vélo. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio la directrice des programmes chez Vélo Québec, Magali Bebron. Salut Magali.
Allô David.
Donc pour ta chronique cette semaine, on se tasse un petit peu des mauvaises nouvelles parce qu'on va voir qu'est-ce qu'il y en est là, des bonnes nouvelles concernant l'univers du vélo.
Oui, puis en matière de bonnes nouvelles, la semaine dernière était vraiment un très, très bon cru. Là, le 12 avril, on a eu tellement de bonnes nouvelles, je ne savais plus où donner de la tête. Alors, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Vraiment, c'est encourageant. Puis, tu sais, avec le beau temps aussi, on dirait que c'était la tempête parfaite. Donc, la première grande nouvelle que je veux partager, c'est Bixi qui, à l'occasion du lancement de sa 15e saison, 15 ans déjà, hein, on a du mal à croire que ça passe aussi vite. Bixi qui nous a annoncé que, en fait, les cyclistes d'hiver vont vraiment être contents, qu'ils allaient poursuivre la saison du Bixi à l'année longue sur un certain territoire. Alors ça, ça fait longtemps que c'était demandé. Il y a quand même d'autres villes qui le font, y compris des villes canadiennes. On peut penser à Toronto, où on a vraiment, quand on achète un abonnement, c'est un abonnement annuel, pas juste okay. Un abonnement saisonnier, parce que ça roule toute l'année. Alors, Bixi est venu nous annoncer que, effectivement, à partir de cette année, on testera sur un territoire de 150 stations qui s'étaleront sur 100 km², essentiellement dans les arrondissements centraux de Montréal. Donc, on peut penser le sud-ouest, Rosemont, Plateau, etc., les suspects habituels où certains diront là où Bixi a commencé il y a 15 ans, où on a testé les choses, eh bien, on laissera ces Bixi-là accessibles à l'année longue.
Mais ça reste, si je peux me permettre, ça reste un projet pilote. Hein?
C'est certain, il faut essayer les affaires. Hein. Les détracteurs vont nous dire oui, c'est pas parce que Toronto est capable de le faire à l'année longue qu'à Montréal, avec nos hivers, ça va fonctionner. Et c'est ça qui est intéressant avec Bixi. On sait que ça faisait un certain temps qu'ils travaillaient là-dessus. Ils étudient leurs affaires. Ils se posent la question comment bien faire les choses. Donc, par exemple, dans les adaptations que Bixi prévoit, eh bien, il y aura le fait que ces vélos-là seront adaptés de pneus de pneus adaptés, donc des pneus à clous, à ma compréhension. On a parlé de pneus à crampons, pneus à clous, mais je crois comprendre que ce seront des pneus à clous. Et également, par exemple, les pédales, elles seront équipées d'un revêtement antidérapant pour qu'avec nos bottes, ça ne glisse pas. Donc, il y a tout l'aspect vélo. Il faut s'assurer que ces vélos-là soient bien équipés pour affronter les conditions. On ne se cachera pas que les conditions hivernales pour de la mécanique vélo, c'est un petit peu plus dur, le sel, le gel, le dégel, etc. Mais Bixi semble vraiment avoir fait ses devoirs pour se préparer à ça. La deuxième adaptation qui est nécessaire, eh bien, c'est toute la question des stations. C'est certain qu'on ne va pas nécessairement laisser des stations en pleine rue pour se faire ramasser par les déneigeuses. Alors, on envisage plutôt de laisser les stations probablement sur des trottoirs ou à des endroits où ce ne sera pas exposé aux véhicules. Et on nous parlait, Alexandre Taillefer, lors de la conférence de presse, qui est sur le conseil d'administration de Bixi, nous disait « on va peut-être tester des choses comme des tapis chauffants pour faciliter le déneigement de ces saisons-là ». De ces stations-là, pardon. On va tester, par exemple, des toits pour protéger un peu les stations qui auront aussi, par exemple...
Plusieurs mesures qui sont pensées quand même là, pour pouvoir en arriver à un résultat quand même agréable.
Oui, c'est vraiment pas de l'improvisation, là. Mm-hmm. C'est quelque chose qui se travaille de longue date et on va enfin voir le résultat. Alors, c'est certain que, comme dans tout projet pilote, il faudra voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, peut-être apporter des modifications, des adaptations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut quand même se rappeler que dans un hiver, des journées vraiment intenses avec des grosses tempêtes, ça se compte sur les deux doigts d'une... Sur les doigts des deux mains, pardon. Il faut que je le prenne dans le bon sens. Les deux doigts d'une main. Ça laisse quand même énormément de belles journées où on peut faire du vélo de façon très, très agréable sur de l'asphalte sèche ou légèrement mouillé. Et je pense que beaucoup de Montréalais vont réaliser que le vélo d'hiver, ben, ça n'a rien d'extrême. Donc, première super bonne nouvelle de la semaine dernière. Puis, à l'occasion, ben, c'est sûr, on nous annonçait quelques ajouts de vélos. C'est pas énorme. Un peu plus de 400 vélos qui seront ajoutés. Beaucoup également de points d'ancrage. Donc, j'imagine que ça va permettre de moins se heurter à des stations complètement remplies quand on voudra remettre son vélo. Mais tout ça va nous amener à environ 10 000 vélos, dont 2 600 qui seront électriques. Okay. qui vont être répartis dans 865 stations. Alors ça, bien, à l'échelle du Canada, c'est le plus grand système de vélo en libre-service. Puis, bon, en Amérique du Nord, c'est sûr qu'on a New York qui n'est pas très, très loin. Eux, ils ont 27 000 vélos, mais pour une population qui est équivalente au Québec au complet, fait qu'on peut quand même se péter les bretelles. On a un beau score. Puis, il faut se rappeler que c'est à Montréal que tout a commencé.
Ben oui, on est dans le berceau là, de l'origine de Bixi.
Voilà, on peut vraiment être fiers. Petite nouveauté aussi que Bixi nous a annoncée, on est vraiment dans l'expérience utilisateur. Là, la capacité maintenant de débarrer le vélo avec un code QR pour ceux qui auront un membership avec l'application Bixi. Donc, ça devrait nous faciliter la vie également.
Magali, je l'ai essayé en fin de semaine. C'était la première fois que je prenais un Bixi de ma vie. C'est super simple. Tout est indiqué à même la borne, à même l'application. Fait que même les gens comme moi qui n'avaient jamais fait l'essai, ben voilà, c'est...
Est-ce que ton expérience t'a convaincu?
Ben, vraiment. Bon. C'est vraiment super simple. Fait que voilà, le mot est lancé pour tous.
Voilà. Donc, sauter sur un Bixi, bon, il est trop tard pour profiter du rabais de 10 piastres qui était offert jusqu'au 15 avril, parce que là, ça y est, la saison est vraiment lancée. Mais ne gâchez pas votre plaisir, ne boudez pas votre plaisir et profitez de ce beau service-là. La deuxième nouvelle vraiment intéressante de la semaine dernière, c'est la STM qui nous l'a annoncé. Un projet pilote, en fait, d'extension des heures où les vélos seront autorisés dans le métro. Alors, qu'est-ce qui était permis jusqu'à présent? Puis ça, c'était quand même le fruit du travail de militants vélos, là, dans les années 80. On avait le droit, jusqu'à présent, d'emporter son vélo, la fin de semaine, à peu près tout le temps, sauf quand il y avait des grands événements. Mais pendant la semaine, c'était seulement entre 10 et 15 heures, puis à partir de 19 heures. Donc, on évitait ce qu'on appelle les heures de pointe. Mais c'était quand même assez restrictif. Là, quand on se compare à d'autres systèmes de métro, c'est rare les systèmes de métro où tu n'as pas le droit de prendre ton vélo avant 7 heures. Donc là, la STM est venue annoncer une très belle bonification. Donc désormais, il sera possible d'emmener son vélo à bord des voitures de métro dès l'ouverture jusqu'à 7 heures.
Okay.
Puis on comprend qu'à 7 heures, bon, ben, c'est l'heure de pointe qui commence, donc on n'a plus le droit, jusqu'à 9h30. Donc on vient de gagner une demi-heure là aussi. Puis on va pouvoir, ça va s'étendre jusqu'à 15h30, on vient de gagner une autre demi-heure. Et dès 18h, plutôt que 19h, on va pouvoir reprendre son vélo. Donc on avait plus de 8 heures d'interdiction jusqu'à présent. Ça a fondu ça à environ 5 heures.
Fait qu'on va quand même élargir l'offre tout en gardant peut-être libérer la possibilité là, pour les heures de pointe juste aux passagers qui sont sans vélo.
Voilà, puis je pense que n'importe qui utilise le métro régulièrement sait que ça peut quand même être très achalandé et un peu serré dans les voitures de métro. Donc, on se choquera pas de ça, mais c'est vraiment bien d'avoir cette possibilité supplémentaire. Puis, la très, très bonne nouvelle, c'est que du 20 mai au 20 août, il n'y aura même plus de restrictions. Donc, on va pouvoir prendre son vélo à bord en tout temps. Ça vient de tenir compte aussi de l'achalandage des cégeps, universités, etc. On a jugé que pendant cette période-là, comme l'achalandage est moindre, eh bien, on pouvait se permettre d'offrir ça aux cyclistes. Tout ça, ça vient avec des petits changements dans les instructions. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on disait toujours aux cyclistes, vous devez aller dans la voiture de tête et les vélos ne sont autorisés que dans la voiture de tête. Là, la STM change complètement le paradigme et dit... En fait, les voitures de tête, on va vouloir les réserver aux groupes scolaires, aux services de garde et aux personnes avec limitations fonctionnelles. Comme ça, ils sont proches du chauffeur en cas de difficulté.
Ça, c'est en tout temps ou pour la période seulement du 20 mai au 20 août?
Non, ça, c'est en tout temps à partir de maintenant pour la durée du projet pilote, dont on espère que ce sera que le début d'une nouvelle autorisation. Donc, désormais, bien, en fait, le message à passer aux utilisateurs, c'est on évite la voiture de tête, mais on a le droit d'utiliser toutes les autres voitures à raison de 2 vélos par voiture. Et idéalement, si on y va avec nos amis, bien, on emprunte chacun une porte pour faciliter l'embarquement-débarquement parce que c'est quand même un petit peu encombré. Je l'ai fait hier, là, j'ai pris mon vélo dans le métro, puis c'est sûr que ça gêne un petit peu la circulation. Puis bien sûr, on va faire appel au gros bon sens de tout le monde, c'est-à-dire que s'il y a vraiment trop d'achalandage dans un métro, ben, on laisse passer celui-là et on prend le suivant. Ça reste un privilège qu'on nous octroie et si on veut faire de ce projet pilote justement un succès, eh bien, il va falloir que tout le monde mette de l'eau dans son vin. Il y avait également des restrictions, j'en parlais tantôt, lors de grands événements. Ce qui est intéressant, c'est que la STM aussi va être plus précise dans les interdictions qu'elle va faire. Donc, plutôt que d'interdire l'ensemble du réseau parce qu'il se passe quelque chose sur l'île Sainte-Hélène, eh bien, on va peut-être dire que c'est uniquement sur la ligne jaune, mais le reste du réseau va être accessible. Donc, on sent vraiment de la bonne volonté de la part de la STM. Je trouve ça extrêmement encourageant, puis j'ai hâte de voir ça.
Ben oui, puis ça donne quand même des beaux espoirs là, pour repenser l'accessibilité, que ce soit pendant les heures de pointe ou en dehors de tout ça. Ça donne aussi des beaux espoirs pour la communauté vélo.
Oui. Puis ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on sait que le futur REM, en fait, va calquer ses horaires sur ceux de la STM. Okay. Alors, c'est un double gain parce que si la STM est plus flexible dans ses horaires, ça veut dire que les futurs trains du REM seront... faut l'espérer, eux aussi, plus largement accessibles. Je vais peut-être finir juste en vous disant, jeudi, on a battu un record de fréquentation sur les pistes cyclables pour un mois d'avril. On a enregistré 63 000 déplacements sur l'ensemble du réseau, plus de 6 600 au compteur le plus achalandé. Alors, c'est un signe qui ne trompe pas. Le printemps a bien commencé.
Ben oui, puis on dit félicitations à ces 63 000 passages-là. Mais Magali Bebrun, c'est toujours un plaisir de t'entendre. On se retrouve la semaine prochaine.
Bonne semaine, David.
Je te remercie.